Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que l'Assemblée a débuté l'interminable examen du projet de réforme des retraites et ses plus de 12 000 amendements, les économistes s'interrogent sur l'étude d'impact et sur le sens de la réforme.
Oui, vous vous rappelez que le Conseil d'État la semaine dernière l'avait jugé lacunaire, cette étude d'impact, confirmation par l'un des économistes à l'origine de la réforme, Antoine Bozio, dans Le Monde. Si l'on exclut les cas types et la présentation du système actuel, l'étude d'impact proprement dite ne représente que 93 pages sur les 1024 de ce texte. Seule certitude pour tous les économistes, c'est la baisse du niveau des retraites par rapport au PIB, mais beaucoup trop d'inconnues importantes encore, comme par exemple le rythme de la croissance dans cette étude qui est fixé dans les projections à 1,3%. Subsistent donc les interrogations quant à l'équité du futur système et surtout le sens de la réforme, réforme de progrès, qui doit aussi commencer par exonérer les professions qu'elle pénaliserait, demande ainsi Jean-François Fitoussi. Pour l'économiste et maître de conférence à Paris, Michael Zemmour, en tout cas, l'étude est effectivement lacunaire. Et puis surtout, le nouveau système a un sens comptable bien précis. C'est une variable d'ajustement des finances publiques, soutient-il. Écoutez-le.
Le sens général de la réforme, quand on regarde les autres pays européens, c'est d'accompagner la baisse du niveau des pensions publiques et de l'organiser. Ça, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Suède. C'est-à-dire de transformer le système de retraite français en un système où on vit de sa retraite et uniquement de sa retraite, ce qui est le cas aujourd'hui pour la plupart des retraités, en un système qui soit un premier étage et qu'il faut compléter, si on en a les moyens, par une retraite supplémentaire par capitalisation ou par une stratégie de patrimoine quelconque. Et l'article 1 de la loi organique sur les retraites, donc une loi importante, supérieure aux autres lois, c'est de dire le système ne peut plus jamais être en déficit. En soi, on peut penser que c'est une bonne idée, mais c'est un changement de logique par rapport à la sécurité sociale. Dans ce cadre-là, on n'a jamais de déficit, mais par contre, ce sont les pensions qui jouent le rôle de variable d'ajustement. Donc s'il y a un choc démographique ou même un choc, une crise, ça se retranscrit immédiatement sur le niveau des pensions. C'est une vision d'une retraite dégradée par rapport à la situation actuelle. La bonne image de ça, on l'a aujourd'hui avec l'assurance santé. On a voulu maîtriser les dépenses de santé publique avec la sécurité sociale. Et du coup, on a rendu indispensable et même obligatoire les complémentaires privées. C'est un petit peu ce qui nous attend avec le système de retraite si on suit le chemin qui est tracé.
Impossible de trancher encore sur les gagnants et perdants de la réforme, ni sur son sens, Xavier.
Oui, sur les gagnants et les perdants, eh bien, si les moyens restent constants, comment la solidarité pourrait-elle être plus forte? C'est une des questions. Sur certains aspects, c'est vrai qu'elle paraît lisser les inégalités, en instaurant par exemple une pension minimum. Ainsi, les précaires aux carrières trouées pourraient être mieux traités, disent trois économistes dans Le Monde, en se fondant justement sur ces fameux cas types fournis par le gouvernement. Au contraire, elle serait moins juste, disent d'autres, le nouveau système renforcerait les inégalités de naissance. C'est ce que dit encore l'économiste Jean-Paul Fitoussi, qui parle d'un désordre intellectuel à l'origine de la réforme. Cela dépend donc de quel point de vue, à quel niveau on se place et à quel aspect on s'attache. Le reste du débat, en tout cas politique, à l'Assemblée, examen public toujours prévu le 17 février.
On passe au bref. Le Sénat, quant à lui, vient d'adopter un texte sur un service minimum garanti dans les transports et il pousse le gouvernement à se positionner.
Oui, proposition à l'initiative des sénateurs républicains majoritaires pour tenir compte de l'exaspération, disent-ils, des citoyens et pour compléter la loi de 2007 qui, elle, ne garantit pas effectivement le service minimum. Le texte prévoit d'assigner aux collectivités la mission de fixer le seuil minimal de transport souhaité, d'obliger les entreprises à réquisitionner leurs grévistes et de limiter la possibilité de grève courte de moins d'une journée. Peu de chances que sa vie se poursuive, a averti le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari en évoquant une possible censure du Conseil constitutionnel. Alors coup politique ou pas, le gouvernement est en tout cas mis au pied du mur et annonce une mission sur le sujet.
Et enfin, on l'évoquait hier ici même, les événements se précipitent autour de la direction du groupe Engie. Le Conseil d'administration est avancé à demain.
Oui, très rapidement, Conseil d'administration concernant l'avenir de la directrice Isabelle Koecher et du groupe, avec une crise devenue publique en début de semaine. Ce matin, l'un de ses soutiens, le vert Yannick Jadot, accusait ouvertement le ministre Bruno Le Maire de déstabiliser le groupe et de vouloir le découper en tranches. C'est l'hypothèse dont on parlait hier, qui serait donc la plus probable, l'éviction d'Isabelle Koecher pour réorganiser le groupe, augmenter peut-être la rentabilité du titre. Prudent hier, en tout cas, Bruno Le Maire a assuré que les critères de décision seraient uniquement économiques, ce qui n'est pas incompatible.
Merci Xavier, et à demain.